ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Auditeurs de Calade 100.9, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, cette nouvelle émission, Les couleurs du monde, qui démarre pour cette rentrée de septembre et qui est animée et organisée par les anciens de Pokermonteur. Emma.
Coucou.
Geneviève.
Bonjour à tous.
Jean-François.
Salut.
Et moi-même, Patrick. Donc pour démarrer cette nouvelle émission mensuelle, qui aura lieu donc le troisième jeudi du mois à 20h, rediffusion le samedi suivant à 11h, et disponible assez rapidement sur le podcast radio-calade.fr, nous allons parler d'un sujet qui s'appelle le unschooling. Alors, la première fois qu'on m'a parlé de ça, je ne savais pas ce que ça signifiait. C'est tout simplement la pratique des parents d'élèves qui décident de faire la scolarité, organiser par eux-mêmes la scolarité de leurs enfants et donc de ne pas mettre leurs enfants à l'école. Mais tout d'abord, nous gardons quelques bonnes habitudes de feu Pokermonteur puisque nous allons commencer, comme d'habitude, par la chronique géopolitique de notre compère Jean-François. Jean-François, nous t'écoutons, c'est à toi.
Bonsoir. Alors, pour cette première de la rentrée, j'avais envie de parler de l'Arabie Saoudite et du sport washing. Alors, qu'est-ce que c'est ? Cet été, vous avez dû remarquer que les clubs saoudiens ont recruté pléthore de stars du ballon rond. Un grand renfort de communication tapageuse. Ronaldo à Al Nassr, Karim Benzema et N'Golo Kanté à Al Ittihad ont été attirés par la perspective d'une fin de carrière particulièrement privilégiée, avec des contrats annuels dépassant 20 millions d'euros, doublés de contrats publicitaires et autres droits d'image, aboutissant ainsi à des packages mirobolants atteignant jusqu'à 200 millions d'euros annuels dans le cas de Ronaldo. Des sommes folles que les grands clubs européens sont aujourd'hui incapables de concurrencer.
Bon, je te coupe deux secondes, mais comment est-ce qu'il faut comprendre cette stratégie saoudienne ?
Alors, celle-ci recouvre tout d'abord des enjeux sportifs. Il s'agit d'élever le niveau sportif du championnat saoudien, qui, sans être faible, demeure quand même très moyen, car jusqu'ici accueillant peu de joueurs étrangers. Alors que les joueurs saoudiens eux-mêmes, très bien rémunérés dans leur propre pays, n'ont pas l'occasion de progresser en pratiquant leur sport dans les ligues européennes de meilleur niveau. C'est ainsi, pour l'État, une occasion de satisfaire et d'occuper la jeunesse dans une dictature théocratique où l'âge médian avoisine 30 ans. Il s'agit également d'un enjeu de santé publique destiné à promouvoir la pratique du sport, alors que les revenus élevés, couplés à un mode de vie sédentaire, ont abouti à une forte prévalence du surpoids et de l'obésité qui concernent déjà 59% de la population. Sur le plan sportif, le climat saoudien, chaud et aride toute l'année, risque néanmoins d'imposer des limites aux performances, selon plusieurs experts. D'autant que les matchs se jouent parfois tôt pour correspondre aux horaires des chaînes occidentales qui, à l'instar de Canal+, ont acquis les droits de diffusion de la prochaine Saudi League.
Ah bah c'est super. Tu es en train de nous dire qu'en fait, c'est fabuleux et que l'Arabie saoudite pense avant toute chose à la santé de ses chers compatriotes.
Ouais, cette stratégie quand même se veut d'abord au service d'une amélioration de l'image du royaume, sérieusement écorné depuis la guerre au Yémen déjà, et puis surtout l'assassinat du journaliste Kamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite en 2018, souvenez-vous, en Turquie, qui avait placé au banc de la communauté internationale un pays par ailleurs largement critiqué quant au respect des droits humains. J'y rappelle quand même, toute chose utile, c'est que la monarchie théocratique saoudienne, c'est quoi ? C'est absence de liberté d'expression, droit des femmes très limité, criminalisation des relations homosexuelles. Bref, cette image est encore davantage ternie par le massacre de migrants d'origine éthiopienne qui a eu lieu très récemment, entre mars 2022 et juin 2023, qualifié par l'ONG Human Rights Watch de crime contre l'humanité. Donc c'est cette image que le prince héritier Mohamed Ben Salman, alias MBS, qu'on commence à connaître, au pouvoir depuis 2015, qui cherche à faire évoluer en mobilisant la puissance médiatique associée au football, sport mondialement populaire, et au sport en général, parce qu'il n'y a pas que le foot. Et il déploie ainsi des investissements tous azimuts. Outre le recrutement par les clubs saoudiens de sportifs à la renommée planétaire, on peut aussi citer le rachat du club de football de Newcastle, acquis par le PIF, qui est le richissime fonds souverain abondé par le revenu du pétrole, ou encore l'organisation du Rallye Dakar depuis 2020, qui permet de valoriser ici les paysages saoudiens, de même que le Tour d'Arabie Saoudite en cyclisme. Alors qu'il accueillera les Jeux Olympiques d'Asie en hiver en 2029 et puis d'été en 2034, le royaume ambitionne même d'organiser les Jeux Olympiques d'été en 2036. Mmh. Et oui, même. Il a envisagé d'ailleurs de candidater pour l'accueil du Mondial de football 2030, une candidature qui serait conjointe avec la Grèce et l'Égypte, mais il y a finalement renoncé vu les délais trop courts pour bâtir un dossier assez compétitif.
Ok, alors bon, ce phénomène n'est pas nouveau. On se souvient par exemple qu'Hitler avait profité de l'organisation des JO de Berlin en 1936 pour faire la vitrine du régime nazi.
Ouais, certes, hein. Mais aujourd'hui, à l'heure des événements sportifs mondialisés, le sport est de plus en plus souvent mobilisé comme vecteur de soft power, au service donc des stratégies géopolitiques comme levier d'influence ou outil de rayonnement, à tel point que l'on parle désormais de sport power, comme l'ont bien montré d'ailleurs les travaux de Pascal Boniface ou de Lucas Aubin. Sur ce plan, d'ailleurs, l'Arabie saoudite a pris un départ plus tardif que ses voisins, comme le Qatar, qui déploie une très active diplomatie sportive depuis les années 90, laquelle a d'ailleurs culminé avec l'achat du PSG en 2011, et surtout l'organisation de la Coupe du Monde de football l'année dernière, en 2022. On pourrait aussi citer le Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis, qui instrumentalisent le sport d'une façon comparable, comme le rachat de Manchester City ou l'organisation de Grand Prix de F1.
Ok. Mais alors, est-ce que tu pourrais nous donner une caractéristique, une spécificité de ce sport power saoudien ?
Ouais, on peut aisément assimiler le développement de ce sport power en Arabie saoudite à du sport washing, un peu comme le greenwashing, si vous voulez. Le sport s'intègre donc dans une stratégie plus large promue par MBS qui s'appelle Vision 2030 et qui a été lancée à partir de 2016. Cette stratégie vise à moderniser l'Arabie saoudite autour de deux objectifs liés. Tout d'abord, il s'agit de diversifier l'économie et de réduire la dépendance au pétrole pour le premier exportateur, pour vraiment un pays dépendant du pétrole. Et ensuite, il faudrait développer les nouvelles technologies, les services à la population ou encore le tourisme, ce qui implique de rendre le pays attractif pour pouvoir diversifier ses revenus. C'est également dans ce cadre que s'inscrit le projet The Line, projetant d'édifier au nord-ouest de l'Arabie saoudite une ville futuriste de 170 km de long. C'est d'ailleurs très controversé en raison de son caractère quand même très peu désastreux pour l'environnement. Mmh. Alors, cette stratégie, elle semble payante, comme le montre la visite de juin 2023 de Mohamed Ben Salman en France, où il a été reçu par le président Emmanuel Macron quand même, pour discuter de la candidature saoudienne à l'organisation de l'exposition universelle de 2030 à Riyad. On peut conclure en disant que ce sport washing fonctionne bien, puisque l'exécution de migrants par les gardes frontières saoudiens, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'a entraîné aucune condamnation.
Ah oui. Moi, j'en ai jamais entendu parler, alors c'est de dire.
Et voilà, effectivement. Cette modernisation reste cependant en grande partie de façade dans une dictature religieuse qui demeure très, 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 très autoritaire.
Merci, Jeff.
Les couleurs du monde.
Vous écoutez Les Couleurs du Monde, nouvelle émission mensuelle des ex-compères de Poker Menteur. Et nous allons aujourd'hui donc parler de landschooling. Alors c'est un terme anglo-saxon qui désigne donc les familles qui font le choix de ne pas scolariser leurs enfants, mais d'assurer l'éducation scolaire de leurs enfants par eux-mêmes. C'est pas quelque chose de nouveau, Geneviève. C'est quelque chose qui, dans la loi, existe depuis un certain temps. Tu vas nous en dire plus, Geneviève ?
Oui, complètement. J'ai préparé, comme d'habitude, un petit historique, un glossaire précis, détaillé. Mais démarrons simplement. En fait, la rentrée... Ben voilà, c'est l'actualité de ce mois de septembre. 2 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école le 4 septembre, on ne parle pas des enseignants. Donc enfants, adolescents, jeunes adultes. Mais pour environ 60 000 enfants, l'instruction se fera en famille. Je dis bien environ, car il n'existe pas de recensement officiel. Il faut donc recouper différentes sources pour avoir une idée de l'ampleur de ce phénomène. Ça peut sembler anecdotique, 60 000 enfants sur 2 millions. Sauf que, en fait, on estime que depuis 10 ans, eh bien, c'est le double d'enfants qui est concerné. Voilà, donc c'est un phénomène en forte expansion et voilà qui commence à susciter, à éveiller ma curiosité. D'abord, c'est tout simple, je ne m'en cache pas, je suis enseignante, donc déjà la première idée, c'est comment ça ne pas aller à l'école ? C'est
de la concurrence illégale,
déloyale.
C'est quoi ça ? Déloyale, voilà, exactement.
C'est possible, mais oui, c'est possible, même si l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et ce n'est pas la faute de Charlemagne, n'en déplaise à France Gall.
Donc, ça, c'est des références que les moins de X années ne connaissent pas, ma pauvre Geneviève.
Tu crois ? Bon, vous avez 2 minutes pour aller chercher. Non, vous n'avez pas 2 minutes, vous m'écoutez, point. Alors, tout d'abord, tu le disais, oui. Unschooling. Mais en fait, en cherchant bien, ce terme de unschooling, je le trouve très classe, très joli. C'est de l'anglais, effectivement. En France, on parle plutôt d'IEF.
Voilà. C'est pas plus connu qu'unschooling en même temps, hein, mais bon. Ok, pourquoi pas.
Alors, IEF, ça signifie instruction en famille. Alors que unschooling, ça signifie déscolariser en anglais. Et donc là, on comprend bien qu'il y a une différence de point de vue quand même, déjà. Voilà. Et qu'en réalité, donc, le terme de unschooling, ça recouvre plutôt une pratique, un choix qui est fait par des familles pour leurs enfants, qui est donc de laisser les enfants découvrir et apprendre par eux-mêmes de façon naturelle et non dirigée. Et donc, il n'est pas du tout question de laisser ces enfants livrer à eux-mêmes, mais bien au contraire, d'exercer leur esprit absorbant. Mmh. Et donc, on n'est pas du tout dans une logique de déscolarisation, mais bien d'instruction en famille. Donc, il me semble que le deuxième terme correspond mieux à notre propos.
Il est un peu plus pertinent.
Tout à fait. Voilà. Donc, IEF, est-ce que c'est nouveau ? Ben, pas vraiment, parce que si on réfléchit bien, l'instruction en famille, ben, c'est l'idée de l'instruction des jeunes Grecs en gynécée, jusqu'à l'âge de 7 ans, où ils restaient auprès de maman et de leur nourrice.
D'accord.
C'est aussi l'idée des précepteurs, certains se souviendront peut-être de Julien Sorel, pour les familles aisées, donc on n'est pas du tout dans la nouveauté. Lorsque l'école devient obligatoire, les foyers qui le souhaitent peuvent demander à continuer à instruire leurs enfants en famille. Il y a dans la loi un dispositif soumis à un contrôle plus ou moins aléatoire qui est prévu dans la loi. Cette obligation scolaire qui est votée en 1883, d'ailleurs on peut se le dire, hein, en 1883 la plupart des enfants vont déjà à l'école. Et donc l'idée c'est pas véritablement l'instruction, le véritable dessein de cette loi c'est plutôt de permettre à tous les enfants de savoir lire, écrire, compter, d'accord, mais surtout loin des écoles religieuses.
Oui c'est ça, hein.
Qui dispensent
l'enjeu politique à l'époque.
Voilà.
L'enjeu de société même, hein. C'est gigantesque.
Société, voilà. C'est la laïcité en fait. Ouais. C'est une instruction qui permettrait d'ancrer la République. Vous gardez bien cette idée en tête, on va y revenir après.
Emma, tu gardes bien l'idée ?
Ok.
Merci.
Je compte sur vous. Hein.
On est au taquet.
Vous aussi, hein, derrière la radio. Hein. Donc, pour autant, donc cette tolérance existe donc depuis et dans l'esprit de cette loi. Et donc, l'idée, c'est quand même, à un moment donné, que cette instruction peut être donnée dans un établissement scolaire ou en famille, ou via le CNED, ou via un site internet. C'est vraiment en fonction de ce que souhaite la famille. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de cette loi ? Eh bien aujourd'hui, plus particulièrement depuis 1998, différents ministres ont eu à cœur de rappeler que c'est une possibilité, mais que quand même, cette instruction, elle doit se dérouler prioritairement dans un établissement d'enseignement contrôlé par l'État.
D'accord.
Depuis la dernière rentrée, cet encadrement s'est même encore accentué.
Et la loi a même été... Ils ont modifié un peu la loi.
Ils ont modifié la loi, exactement. Et les conséquences, d'ailleurs, sont assez conséquentes, puisque, en fait, on estime, à la rentrée 2023, qu'une famille sur quatre ayant fait cette demande d'instruction en famille se l'est vue refuser.
Ah oui, à cause des nouvelles conditions plus draconiennes.
Exactement.
Et autrefois, avant la loi Blanquer, il suffisait de faire une déclaration. De
d'accord,
dire,
c'est une déclaration et
en
c'était
famille.
Bon.
Maintenant, il faut une autorisation.
D'accord. Voilà. Les termes sont importants. Tout à fait. Une autorisation. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette situation, elle change ? Alors, dans un premier temps, je vais peut-être rappeler simplement ce que Emmanuel Macron, en 2020, a dit dans un discours. Il a expliqué qu'il fallait lutter contre les replis communautaires, les séparatismes qui mettent en péril les valeurs de la République. Et là, on sent bien qu'en fait, cette IEF a pris un autre... dans l'esprit... des médias pourraient recouvrir...
Et de certains politiques, dont M. Macron.
Dont Emmanuel Macron, tout à fait. Et qu'en fait, peut-être que cette IEF autoriserait des familles à, du coup, sortir leurs enfants de l'école.
Oui, pour un enseignement confessionnel, communautariste ou je ne sais quoi.
Voilà. Alors, ça peut sembler anecdotique, là encore, sauf que, alors, il n'y a pas vraiment de stats officielle, mais en tout cas, il semblerait que la moitié des familles qui font le choix de l'IEF le feraient pour des raisons confessionnelles.
Ok, donc ça expliquerait le doublement du nombre de personnes depuis 10 ans qui font ce choix. Tu as signalé ça au début.
Ça peut être une explication.
Okay. Après, il faut savoir sur quoi ça se fonde, hein, cette affirmation-là. Sur quelles statistiques
Alors, c'est voir. Tout le problème. Pas de statistiques officielles, c'est difficile, il faut recouper les chiffres entre les naissances, où passent les enfants, etc. Pour autant, il y a quand même une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des enquêtes qui ont été menées par des journalistes indépendants et qui mettent bien en évidence que une famille qui aujourd'hui souhaite passer par un organisme qui ne serait pas forcément le CNED peut se voir assez rapidement proposer des cours religieux, peut rapidement se voir avec
un... Il y a un marché.
Il y a un marché. Et il y a un marché qui fonctionne très bien.
D'accord.
Et toute la difficulté pour ces familles, du coup, c'est d'arriver à se repérer. Et c'est là où, qu'on le veuille ou non, le rôle de l'éducation nationale, c'est quand même aussi de vérifier que l'enseignement qui est dispensé se déroule dans des conditions qui soient adaptées à des enfants, puisqu'on s'est rendu compte notamment que certaines écoles, donc là je parle d'un cas particulier à Aulnay-sous-Bois, une école donc, qui était dans un préau, dans un grenier, donc pas de cantine, pas de cours de récréation, une soixantaine d'enfants donc, dans des toutes petites salles, et à qui on faisait lire des textes très clairement.
Enfin, ça, c'est un dévoiement de cette philosophie de l'IEF, parce qu'en fait, là, il crée une école, quelque part. Tandis que l'IEF, c'est les familles qui s'en débrouillent par elles-mêmes.
C'est
pas pareil. Hein.
C'est voilà, ce qu'on appelle une école sans nom.
Non déclarée, c'est vraiment un dévoiement de la loi, quoi, je trouve.
C'est enfin, un
de cette
de la
possibilité.
Loi. Et là, tu touches du doigt les conséquences directes pour toutes ces familles qui souhaitent un enseignement libre, et c'est leur droit. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Hein, les familles ont le droit de choisir l'enseignement qui est donné. Par contre, bien, se retrouvent eh bien, privés de leur liberté à cause de cette dérive.
D'accord, très bien. Nous allons faire une première pause musicale. Non, on ne fait pas une pause musicale ? Emma, tu boudes ? Non, non, on va faire une pause musicale, Jean-François.
Jean-François,
il boude, il ne veut pas faire une pause musicale. Nous allons écouter Aldebert. Tu n'aimes pas Aldebert, Jean-François ? C'est ça ?
C'est trop bien, Aldebert.
Ouais, je ne connais pas assez bien encore Aldebert.
Bon,
bah,
allez,
écoute, alors,
écoutons Aldebert.
Bah,
c'est parti.
École, je ferai n'importe quoi pour louper l'école. Moi, j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac, faire mon service militaire, traverser la Manche au bouée, chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier. Oh, oh, oh.
Louper l'école, je ferai n'importe quoi pour louper l'école. Moi, j'irai jusqu'à
devenir magicien pour me faire disparaître, prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète,
prendre en otage ma petite sœur,
terminer mes choux de Bruxelles,
manger des crayons de couleur
pour vomir un arc-en-ciel.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école,
moi j'irai jusqu'à
sans armes contre un gladiateur,
je serai prête à me battre,
imiter les cascadeurs,
avaler de sang limaces pour effrayer les instits, faire sauter la salle de classe à la dynamite.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour moi c'est pire que le bac. Et lorsqu'il eut inventé ce sacré Charlemagne, aurait dû rester couché.
Comptez pas sur moi, les gars, c'est sympa, mais c'est sans moi. Oui, j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter les gars.
On veut pas y aller, on préfère rester couché. Faut les mains, faut de la main, la maîtresse en maille et pas. On veut.
Dans les toilettes, provoquer un ours en duel,
avaler une clarinette ou repeindre la tour Eiffel,
boire du coca périmé
pour attraper des boutons,
manger du beurre toute la journée,
finir aussi gros qu'un camion,
chanter du Lori en latin,
faire une sieste de 6 mois,
manger la pâtée du chien,
apprendre l'annuaire en chinois,
ne respirer qu'une fois sur deux,
me laver à l'eau de Javel,
ne plus jamais cligner des yeux,
torturer le père.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école,
moi j'irai jusqu'à. Là.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Bon alors Jean-François, c'était bien Aldebert ?
C'est pas si mal que ça, ouais. Non, c'est assez entraînant, ça va.
Merci Jean-François. C'était Pour louper l'école d'Aldebert. Vous écoutez Les Couleurs du Monde, nouvelle émission de cette rentrée qui remplace Feu Peu Carmenteur. Et nous parlons de... Alors, on va voir la deuxième version. Geneviève, rappelle-moi, c'est l'IEF, c'est ça ?
L'instruction en famille.
L'instruction en famille, c'est ça. Alors, Emma, tu vas nous en dire un petit peu plus sur les différentes manières de pratiquer l'instruction en famille.
Tout à fait. Alors, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Il y a la version la plus classique, enfin la plus formelle, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'école à la maison. Il s'agit de suivre un programme à l'aide de manuels, de cours en ligne, par exemple comme le CNED. Donc c'est un apprentissage qui va rester assez formel, même s'il est dispensé à la maison, ce qui permet quand même plus de souplesse et un accompagnement plus individualisé. Après, il y a l'autre façon que tu avais nommée tout à l'heure, hein, le unschooling, c'est-à-dire le fait de laisser les enfants s'instruire sans enseignement. Alors, ça paraît bizarre pour des profs, s'instruire sans enseignement. Donc, je vous en dis un peu plus. Hein. L'idée, c'est qu'on ne va pas suivre un programme ou faire des évaluations formelles. En fait, on va laisser l'enfant libre de ses apprentissages et en fonction de l'objectif qu'il veut atteindre ou d'un projet qu'il a choisi, eh bien, on va simplement lui fournir les ressources dont il a besoin ou l'aider à trouver les informations qu'il lui faut pour réaliser ce projet. Du coup, il va apprendre beaucoup de choses, mais sans s'en rendre compte, par le jeu, par la créativité, voilà, autour d'un projet qui est le sien. Donc, c'est un apprentissage plus informel, que l'on nomme parfois aussi apprentissage autonome. Alors, ce terme d'apprentissage autonome, il vient d'un livre de John Holt. John Holt, alors, il a été écrit en 1973, pardon. J'ai un petit
doute. Tu m'as essayé dans les dents, le pauvre.
Je ne l'ai pas écrit. Bon, alors, il est né en 1923 et mort en 1985, donc ça doit être ça. Donc, c'est un professeur qui enseigne pendant 15 ans à l'école, puis qui quitte l'école pour enseigner à la fac en sciences de l'éducation et qui écrit des livres, notamment, alors attention, mon anglais va être magnifique, How Our Children Fail et How Children Learn, autrement dit, comment les enfants échouent et comment les enfants apprennent.
Fail.
Sorry,
excuse-moi, j'ai pas compris.
Sorry. Voilà, la prochaine fois, quelqu'un d'autre fera l'anglais à ma place. Et alors, il recense du coup trois causes de l'échec à l'école. Les enfants ont peur d'échouer, ils s'ennuient et on les embrouille. Et quatre facteurs pour, au contraire, apprendre de manière efficace: le temps, le plaisir, la liberté et l'absence de pression. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, dans ce que j'ai donc nommé un unschooling, eh bien, clairement, c'est... ces facteurs sont réunis, hein, puisque l'enfant, voilà, il a le temps, le plaisir, puisque c'est lui qui choisit, la liberté, et absence de pression, puisqu'on ne va pas l'évaluer à la fin de son projet.
Oui, bien sûr. Hein.
Simplement, finalement, il va s'évaluer lui-même, parce que s'il veut construire une fusée, puis qu'il y arrive, ben, il a réussi. Hein. Du coup, alors, dans cette seconde façon de pratiquer l'instruction en famille, il y a quand même une remise en cause plus importante de l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que, de fait, l'école aujourd'hui, elle, ses ressorts principaux, ce sont les programmes et les évaluations. Et là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Hein.
Et puis, il y a une transmission verticale aussi qu'on retrouve dans la première méthode que tu as définie, mais
absolument,
pas dans la deuxième.
Tout à fait. Et du coup, cette manière de pratiquer l'instruction en famille, elle repose vraiment sur le fait que les enfants sont naturellement enthousiastes et ont envie d'apprendre. C'est un constat que fait Alexander Neil, qui est le fondateur de l'école de Summerhill.
Ah bah oui, bien sûr.
Il laisse les enfants totalement libres de leurs activités. Si vous voulez en savoir plus, on mettra en podcast, en description, l'article de Jules, dont on va passer l'interview juste après. Hein, et qui,
un parent qui a choisi la méthode de l'IEF.
Tout à fait, et qui traite de, qui parle justement d'Alexander Neil dans cet article. Et puis aussi, les neurosciences valident cela, hein, l'enthousiasme naturel des enfants. On l'a évoqué lors de l'émission Poker Menteur, en mai dernier, sur Maria Montessori, et notamment à travers l'ouvrage de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant.
Oui, parce que clairement, la méthode que tu as décrite, la deuxième, unschooling, elle est vraiment fondée sur la même philosophie que toutes les pédagogies qu'on appelait École Nouvelle depuis un siècle.
Absolument.
Et qu'on continue à appeler École Nouvelle, parce que de toute façon, c'est une pédagogie qui rentre difficilement, un peu, mais difficilement dans l'éducation nationale traditionnelle.
Absolument. Et puis après, juste si on fait preuve de bon sens, regardez un petit enfant, alors là aussi je m'appuie sur les écrits de Jules, hein, vous verrez dans son article si vous allez le lire, un enfant qui a moins de 3 ans, qui n'est pas scolarisé, qui n'est pas soumis à des apprentissages, je vous rappelle, va apprendre quand même de lui-même à parler, à marcher, à faire plein de choses, sans qu'on le lui ait montré.
C'est vrai.
Et il suffit de lui donner les outils. Moi-même, mes enfants ont appris à nager tout seul, Je ne leur ai jamais montré. Simplement, depuis qu'ils ont 6 mois, on va à la piscine régulièrement. Je les ai laissés aller là où ils avaient papier, sous surveillance quand même. Et ils ont nagé vraiment tout seuls.
D'accord.
Voilà. Et en fait, c'est... on voit bien que les enfants sont tout à fait capables d'apprendre par eux-mêmes quand ils en ont la motivation.
D'accord.
Alors, troisième chose qui en fait se recoupe avec le unschooling, le fait que ces enfants qui sont instruits en famille fréquentent régulièrement d'autres enfants d'âge divers et d'autres adultes. Et ça permet un apprentissage par observation et par imprégnation. En observant l'adulte, par exemple, qui cuisine ou qui bricole, l'enfant va développer des compétences dans ces domaines et chercher à faire par lui-même, d'abord par imitation, puis en développant ses propres projets.
D'accord. D'autres enfants, donc ça veut dire que bon, bah, c'est des familles qui ne sont pas coupées du monde, qui ont un réseau de relations sociales, etc.
Absolument. Voilà. Il y a beaucoup de réseaux en fait, dans l'instruction en famille. Des familles, oui, qui se retrouvent régulièrement,
et en plus,
qui
voilà,
font des activités,
des familles
ensemble,
qui ont fait ce choix de l'instruction en famille.
Absolument.
D'accord.
Et quand... Alors, juste pour donner un petit exemple, moi, je ne suis pas instruite en famille, mais sur le fait de faire les choses par imprégnation, mon fils, j'ai commencé avec lui par faire des gâteaux. Mmh. Puis après, il s'est mis à faire des gâteaux au pif. Donc, il a testé plein de trucs. Parfois, d'accord, c'était pas très bon. Mais maintenant, il a une recette de super gâteau qu'il a fait lui-même. Et en fait, ça entraîne beaucoup de fierté et,
ouais,
d'estime de lui, bien plus qu'une bonne note obtenue à l'école. Mmh. Et en fait, moi, bah, c'est anecdotique. C'est voilà, la cuisine une fois. Mais en fait, c'est le cas toute la journée pour les enfants qui pratiquent l'IEF. Et ils vont finalement être aussi au contact de toutes les activités des adultes. Alors que pour nos enfants, bah, ça va être seulement le soir et le week-end, puisque le reste du temps, ils vont à l'école.
Dernière petit chose, bémol, oui, alors, mais, ça demande quand même un gros investissement des parents, il faut qu'ils soient là, quoi.
Hein. Absolument. Alors, vous verrez dans l'interview, Jules le dit, hein, que c'est coûteux, par contre, pour les parents.
Ouais, c'est ça. Voilà. Hein.
Absolument. Dernière chose, ça permet, du coup, dans ces pratiques-là, il y a aussi une ouverture au monde forte et plus vaste, parce qu'il y a des sorties régulières culturelles au théâtre, au musée.
D'accord.
Qui sont une source d'apprentissage
qui intégrer ça,
bien,
voilà,
plus fréquente,
bah,
pour,
oui,
les familles des
ça
enfants qui
plus
vont
de
pas
temps,
à l'école.
Et puis, il faut
ils
le
peuvent
faire
aller plus loin, parce qu'ils peuvent partir pour la journée, rentrer un peu plus tard, ils n'ont pas les contraintes horaires. Enfin, et Jules le dit aussi un petit peu dans l'interview, mais je voulais insister, une plus grande diversité sociale, c'est-à-dire parce qu'ils fréquentent d'autres enfants IEF qui viennent d'autres milieux sociaux, qui viennent parfois d'autres villes, alors que l'école traditionnelle, ben, elle va souvent rassembler des enfants du même village, d'une même classe sociale, et du coup, c'est aussi un apprentissage social,
d'accord,
qu'ont ces enfants, que n'ont pas forcément, finalement, les enfants qui vont à l'école.
D'accord, très bien. Et pour continuer un peu dans cette présentation, on va écouter le témoignage donc, d'un parent qui pratique l'éducation en famille, qui s'appelle Jules, comme tu nous l'as teasé, bravo. Est-ce que Jean-François accepte que nous passions l'interview de Jules ?
Galade.
Les couleurs du monde.
J'ai 35 ans, j'habite en Bretagne, je suis marié et père de 2 enfants qui ont 10 et 6 ans.
Ok. Est-ce que ça fait longtemps que, avec tes enfants, tu pratiques l'instruction en famille ?
Alors depuis toujours, vu qu'ils ne sont jamais allés à l'école. On a commencé à se renseigner quand la première, la grande, avait 2-3 ans à peu près. Donc ça doit faire 7-8 ans.
D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes questionné là-dessus, puis que vous avez finalement choisi ce mode d'instruction ?
Alors, c'était un long process. Je sais que ma femme ne travaillait plus à cette époque. Elle avait quitté son travail et donc elle s'occupait de ma fille à la maison qui avait pas encore l'âge d'aller à l'école. Et un jour, elle se renseignait et elle m'a dit « Mais potentiellement, on peut ne pas la mettre à l'école. Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, ma première réaction, c'était « Non, hors de question. Il n'y a que des profs dans ma famille, quasiment. Il n'y a que des profs dans sa famille. Ça n'a jamais été une solution. » J'avais même envisagé. Et donc, comme d'habitude, on s'en est suivi des tas de débats ou d'arguments, contre-arguments. On a été voir un film, c'est surtout ça qui a été déclencheur, qui s'appelle Alphabet de Wagenhofer. C'est le réalisateur qui a fait We Feed the World sur le marché de l'agroalimentaire. Voilà, c'est un peu la même chose, mais sur le système éducatif.
Alors, pour les auditeurs, en lien, du coup, dans le podcast.
Et donc, ce film traite du système éducatif à travers le monde, dans différents continents et pays, et des alternatives, donc des choses qui vont bien ou pas bien dans le système et des potentielles alternatives. Et donc, quand je suis sorti de ce film, j'ai dit à ma femme, ouais, en fait, non, t'as raison, on va pas les mettre à l'école. Donc, très bien, on fait ce que tu veux. On peut essayer. Au pire, si ça marche pas, on pourra toujours y retourner. Et c'est là qu'on a commencé à se renseigner sur les groupes d'instruction en famille. Et là, on habitait à Nantes à l'époque, et il y a un gros groupe un gros réseau de familles d'instruction en famille. On s'est rapproché de ce groupe et c'est là qu'on a continué.
Tu peux m'expliquer un peu comment vous fonctionnez au quotidien avec les enfants? Est-ce que vous suivez un programme? Est-ce que c'est vous qui faites votre programme?
C'est un peu difficile à dire parce que justement, une des volontés pour lesquelles on ne voulait pas les mettre à l'école, c'est parce que on avait remarqué que l'enthousiasme des enfants pour une matière ou une autre, il est très volatile. Il peut être très très long pour quelque chose, et pendant très longtemps, puis après disparaître. Et donc les forcer à faire un jour des dictées, un jour de la grammaire, un jour des maths, ou trois fois pareil dans la journée, c'est pas forcément leur méthode de fonctionnement. En tout cas, c'est pas le méthode de fonctionnement de mes enfants. Et donc on essaye au maximum de se coller à leurs envies, à leurs besoins. Le but, c'est de leur fournir beaucoup. Leur fournir des possibilités, leur fournir des ressources, et en fonction de ce qui clique chez eux, de ce qui les fait rebondir, on nourrit. On nourrit avec autre chose, on nourrit avec des visites au musée, on nourrit avec des livres, avec des vidéos, avec des balades, avec plein de choses, en fait.
Ouais, ouais.
Et après, on raccroche ça à des notions plus scolaires, on va dire.
Mmh.
Le programme habituel de la semaine ou de la journée, il n'est pas forcément très très calé. Pour la grande qui commence à être un peu, qui va avoir 10 ans, là, on commence à avoir des choses un peu plus rythmées avec des matières un peu plus spécifiques d'une journée à l'autre. Mais ça peut très bien être une journée, elle est fatiguée, elle veut pas se lever parce qu'elle a une semaine compliquée. On va zapper. En fait. On n'est pas dans un process fermé.
Ouais, vous êtes beaucoup plus à l'écoute des besoins de vos enfants, en fait.
C'est le but, oui.
Ouais. Super. Et est-ce que c'est vraiment pour donner une idée aux auditeurs d'une journée où les enfants sont en forme, ils ont envie de faire des choses, tu peux nous donner un aperçu de une journée en ayant bien conscience que c'est pas le lendemain sera peut-être pas du tout le même.
Alors souvent ce qu'on fait, c'est qu'on travaille plutôt le matin.
Ouais.
Donc les activités qu'on fait le matin, ça peut être en fonction des saisons, on a une étape des saisons, je ne sais plus si c'est la méthodologie Steiner notamment, qui fait pas mal travailler les enfants sur de la fabrication, donc de la couture, de la laine, des fabrications avec des bouts de bois, ce genre de choses. Uh-huh. On a des outils pédagogiques de grammaire, de maths, de géométrie. Donc le matin, c'est souvent des ateliers à partir de ça, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. On leur dit, aujourd'hui c'est ça, est-ce que ça t'intéresse? Donc il y a potentiellement plusieurs outils, ils choisissent celui qui les intéresse.
Ouais.
Pour les maths, par exemple, on utilise la méthode des frères Lyon, une méthode canadienne.
D'accord.
Il y a plein de méthodes parmi lesquelles on pioche pour leur proposer des choses. Et l'après-midi, par contre, c'est réservé plutôt pour les activités ou les rencontres avec les copains. Donc,
d'accord.
Soit des sorties en forêt, des balades, des soirées cinéma, des activités à la piscine, par exemple, parce qu'il faut les emmener à la piscine, leur faire faire du sport, tout ça.
Du coup, c'est plutôt vous deux ou que ton épouse ou que toi qui vous en occupez. Enfin, est-ce que l'un de vous deux travaille du coup à côté?
Alors moi, je travaille pas à plein temps, mais je travaille à 80%. Donc quand je travaille, c'est ma compagne qui s'en occupe.
Okay.
Les jours où je ne travaille pas, du coup, on switch. Je m'en occupe. Alors on s'est séparé des choses. Donc, moi, je gère tout ce qui est apprentissage de la natation à la piscine. Je les emmène. Je leur fais faire des activités qu'on fait le week-end, c'est moi qui les emmène à leurs activités extra-scolaires. C'est pas le terme, c'est pas l'école, mais les activités du week-end, etc. En fait.
D'accord. Et du coup, ta femme, elle fait plutôt les choses qui ressembleraient plus à du scolaire, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Ok, ça marche. Et du coup, alors, t'as un petit peu dit des rencontres. Justement, je voulais te parler du lien social pour les enfants. C'est pas compliqué de pas être tout le temps avec d'autres enfants comme le sont les enfants qui vont à l'école?
Moi, je trouve au contraire que c'est une richesse. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les gens pensent que comme les enfants vont pas à l'école et que c'est un des rares liens sociaux des enfants, les enfants qui n'y vont pas n'ont pas de lien social. Les enfants, ils rencontrent des adultes. Au-delà de moi, ils rencontrent les parents de leurs copains. Et ils ont des copains qui sont aussi instruits en famille, qui rencontrent. Ils font des activités dans plein d'associations, donc ils rencontrent d'autres enfants, d'autres parents, d'autres adultes à ce moment-là. Ils vont faire les courses avec nous, ils rencontrent des gens dans la rue quand ils se baladent. Donc, ils rencontrent des personnes et ils ont du lien social avec des gens. Et j'aime souvent aussi retourner l'argument contre ceux qui me le demandent, c'est que le lien social, certes, il existe à l'école, mais ce sont des enfants qui viennent souvent du même quartier, du même milieu social, qui ont tous le même âge et qui ne sont en lien avec des adultes, uniquement avec des adultes qui ont une autorité sur eux. Donc ce lien social qui existe à l'école, il peut être mis en cause aussi.
Ouais, en fait, il est même biaisé. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, il y a beaucoup plus de diversité dans ce que tu fais que dans ce qu'ils peuvent avoir à l'école. Quel lien tu as avec l'éducation nationale? Quel lien vous avez? Est-ce que ils viennent? Est-ce que vous avez des comptes à rendre? Est-ce qu'ils viennent voir ce que vous faites?
Oui, tout à fait. Une fois qu'on a fait la déclaration, enfin, une fois qu'on a l'autorisation, l'éducation nationale prévient à la mairie du domicile pour que les personnels de la mairie passent voir la famille. Pourquoi ils font ça? C'est souvent parce que parfois il y a des gens qui mettent pas leur enfant à l'école parce que ils ne peuvent pas y aller, ils n'ont pas de voiture, ils ne savent pas qu'il y a pas de ramassage scolaire chez eux, ce genre de choses, donc ils n'ont pas la capacité d'emmener leur enfant. Donc l'État veut vérifier que c'est pas par un manque de sa part que l'enfant ne va pas à l'école, et ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas des situations de détresse sociale ou des enfants battus, ce genre de choses.
D'accord.
Une réunion d'assistance sociale, on va dire. Donc c'est pour vérifier ces premiers points. Et ensuite, l'éducation nationale nous convoque tous les ans avec les enfants pour vérifier l'avancement, les acquis, etc. Donc, ils vérifient la pédagogie qu'on utilise et ce qu'on fait, justement, là, ce que je décrivais tout à l'heure. Mm-hmm. Et ils font des tests aux enfants pour vérifier où ils en sont et s'ils évoluent d'une année sur l'autre dans leurs apprentissages.
D'accord. Et du coup, moi, l'éducation nationale, je connais, hein, puisque je suis prof. Est-ce qu'ils font des tests pour juste voir s'il y a une évolution chez l'enfant, ou est-ce que c'est calé sur les programmes? Parce que si c'est calé sur les programmes, ça n'a pas vraiment de sens, en fait.
Alors, ça dépend des académies, ça dépend des inspecteurs, ça dépend... nous, les personnes qu'on a vues nous ont fait faire des exercices. Alors, généralement, quand les enfants sont petits, ils vérifient lire et faire compter. C'est la première chose qui va être super importante pour eux. Et pour les autres, ils vérifient deux, trois notions d'histoire, si le discours de l'enfant est OK, comment il réfléchit, pose des problèmes de mathématiques, des divisions, ce genre de choses. Mais alors, je sais pas, je connais pas parfaitement les programmes, donc je sais pas exactement comment c'est calé. On les suit pour de temps en temps pour vérifier si nos enfants en sont loin ou pas dans certains domaines.
Mais, d'accord.
On essaye de pas se caler dessus, parce que c'est pas du fait de notre démarche.
Ouais, tout à fait. C'est ça l'idée. Enfin, c'est d'après ce que tu dis, en tout cas dans ton académie, ça a l'air assez souple parce que. Sinon, je ne vois pas comment ça peut fonctionner avec l'essence même de l'instruction en famille, où l'enfant il va pouvoir avancer vraiment beaucoup sur, je ne sais pas s'il est passionné d'histoire, il va pouvoir en savoir un milliard de fois plus que d'autres enfants, mais peut-être que sur les maths, il aura moins avancé que d'autres enfants de son âge, et ce qui n'est pas grave du tout, à mon sens, à moi, mais tu n'as jamais eu de problème à ce niveau-là.
Oui. On n'a jamais eu de problème. On connaît d'autres chez qui les inspections ont été un peu plus limites, et donc qui ont eu des secondes inspections, enfin des contre-inspections, je ne sais pas comment ils appellent ça.
D'accord.
Des contre-visites.
Ok.
Et alors, ça, c'est pour notre académie. Dans les autres académies, je ne sais pas vraiment, je ne me renseigne pas en fait sur comment ça se passe, mais je sais que dans certaines, ça peut être plus strict. Ouais.
D'accord. Et est-ce que potentiellement, on pourrait vous dire, ça ne va pas du tout, il faut que votre enfant retourne à l'école, enfin, aille en l'occurrence, dans ton cas, à l'école?
Il peut y avoir des injonctions de rescolarisation.
Ok, d'accord. Et du coup, là, si tu devais faire un peu le bilan, parce que ça fait un bon moment maintenant que tu pratiques l'instruction en famille, tu pourrais me dire un peu les pour, les contre, à la fois pour tes enfants et pour toi.
La question du rythme, elle est clairement ultra importante.
Ouais.
Lever mes enfants à 8 heures pour les amener à l'école à 8, 9 heures, c'est juste impossible.
Mm-hmm.
J'ai jamais réussi à l'éduquer à cette heure-là. Et ils se lèvent, ils sont en forme après. Je veux dire. Donc, c'est quelque chose de compliqué, je veux dire, de pousser les enfants à aller à l'école et puis les faire faire des programmes ou des choses dont ils n'ont pas envie ou dont ils ont envie. Mais, ou au contraire, quand ils ont envie de quelque chose, leur dire non, ça c'est pour plus tard, laisse tomber, fais autre chose qui ne t'intéresse pas plutôt. Ouais. Donc, ouais, ces deux points-là, c'est une question du rythme et des envies de l'enfant, en fait.
Ok.
La question du rythme, elle est aussi valable pour les adultes parce que ça permet potentiellement de potentiellement de partir plus facilement pour aller faire des visites ou ce genre de choses. On est beaucoup plus libre que si les enfants devaient être tous les jours.
Bien sûr. Tu vois des inconvénients quand même à l'instruction en famille ou toi, tu t'en vois pas spécialement, c'est que du bonus pour toi?
Non, il y a des inconvénients, il ne faut pas se leurrer. Les gens ont dû le remarquer pendant le Covid, avoir ses enfants chez soi 24, c'est lourd parfois.
Oui.
Deux, ils ne s'entendent pas toujours entre eux, donc ça peut être lourd. Donc oui, c'est quelque chose pour lequel il faut être patient, il faut savoir s'accrocher. Mm-hmm. Et deuxième inconvénient, c'est coûteux dans le sens. Il faut une personne à temps plein, oui, au minimum, pour les deux enfants. Mm-hmm. Donc ça veut dire que si on est deux, il faut pouvoir être capable de vivre une famille entière sur un seul salaire.
Ouais.
C'est pas donné à tout le monde.
Bien sûr.
Donc c'est quelque chose auquel il faut réfléchir avant de s'engager.
Très bien. Dernière chose, est-ce que toi, tu aurais des suggestions à apporter à l'école traditionnelle au vu de ton expérience d'instruction en famille ?
C'est dur à dire, je pense, parce que l'école a pour but de récupérer la masse des enfants et de les former. Et l'instruction en famille, pour moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire on prend l'individualité de l'enfant et on s'y adapte. C'est un modèle qui ne peut pas du tout être adapté à l'école à cause du nombre.
Mm-hmm.
Donc c'est difficile de transposer un peu ce qu'on apprend ici pour d'autres, parce que ce qui va marcher pour un enfant ne va pas marcher pour l'autre. Et donc c'est pour ça que le modèle de l'éducation nationale, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à le valider, en fait. Effectivement, les profs peuvent aller au cas par cas pour les enfants, mais vu le peu de nombre qu'ils sont pour le nombre d'élèves et la manière dont ils sont traités ou payés, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place.
Je sais pas
pour les programmes ou les outils qu'on utilise, oui, il pourrait y avoir des transpositions parce qu'il y en a certains qui peuvent être utiles dans ces cas-là, mais le modèle en général, je sais pas si on arrivera à le transposer.
Très bien. Je te remercie beaucoup, Jules, d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un
voiture et en bateau à voile.
Galade.
Les couleurs du monde.
Vous écoutez Les couleurs du monde. Nouvelle émission mensuelle Expo Carmenteur. Ce mois-ci, nous parlons de l'instruction en famille, le choix des parents d'instruire leurs enfants eux-mêmes, de ne pas les mettre à l'école. Alors, nous avons écouté l'interview de Jules qui nous a donné déjà un vécu très intéressant. Et nous avons eu une petite pause musicale. C'est quoi cette horrible chanson que nous avons écoutée, Geneviève ?
Mais quelle horrible chanson ! Mais quelle comment tu oses dire des choses pareilles ? Les c'est mots de Prévert.
Oui, vas-y, excuse-nous, Geneviève.
Chanté par Domiti et Amaury, donc un petit groupe très sympathique pour les enfants. Et surtout, quel monde fabuleux on découvre en dehors de l'école.
Voilà, merci Geneviève.
C'est pas une belle illustration, ça ?
C'était un bon lancement, c'est un petit peu parfait. Taquin, mais c'était un bon lancement.
Ouais,
alors,
de toute façon, les auditeurs se feront leur propre opinion, ouais, t'inquiète
totalement,
pas.
Totalement. Bon, nous avons eu le point de vue, je dirais, l'expérience personnelle de Jules quant à sa motivation, qui lui a décidé à adopter ce choix. Mais qu'en est-il des autres parents ? Quelles sont les motivations des parents pour faire ces choix de scolariser, de ne pas scolariser leurs enfants ?
Alors, il y en a plusieurs. C'est dans le désordre. Le respect du rythme des enfants. Il faut savoir que le rythme, enfin, d'abord sur le plan du rythme biologique, l'école, elle impose à l'enfant de se lever tôt, de ne pas avoir toujours son quota de sommeil. On sait par ailleurs que le rythme biologique des adolescents, il est conçu pour qu'ils s'endorment plus tard le soir et qu'ils se réveillent plus tard le matin.
Ah bon, c'est vrai ? Je savais pas.
Et dans le bouquin de Céline Alvarez, toujours les lois d'accord. naturelles de l'enfant,
elle, est trop
elle
forte, cette Céline.
Le dit.
D'accord.
Et donc, pour être à l'école à 8h ou 8h30, il faut se réveiller à 7h pour les plus chanceux, parfois même à 6h, parfois même avant, pour ceux qui habitent loin de l'école.
Oui, ouais, tout à fait.
Et puis aussi la question du rythme scolaire, parce que l'école, elle oblige les enfants à suivre tous le même rythme d'apprentissage. Mmh. Si je résume, une heure, une leçon. Or, tous les enfants n'apprennent pas au même rythme. Mmh. Donc ça, c'est une première cause qui fait que les parents peuvent choisir l'instruction en famille. Deuxième raison, des parents nomades. Par exemple, des parents qui travaillent dans le milieu du spectacle, qui font des tournées, des gens du voyage, ou des familles qui souhaitent voyager. Moi, j'ai une copine qui a décidé de pratiquer l'IEF tout en faisant un tour d'Europe en camion pendant 2 ans avec ses enfants. D'accord. Troisième cause, moins amusante, parce que c'est un peu une cause forcée au départ, les problèmes de harcèlement. Ce sont des causes assez fréquentes de l'instruction en famille.
D'accord.
Et bien que ce soit une préoccupation de plus en plus forte dans les établissements, il y a encore beaucoup d'enfants qui subissent du harcèlement sans qu'une solution soit trouvée.
Ouais.
Et du coup, l'instruction en famille, c'est parfois d'abord une solution contrainte pour le bien-être de l'enfant. Mmh. Après, de nombreuses familles qui font ce choix pour cette raison-là se disent ensuite plus épanouies et considèrent en fait que c'est un bien pour un mal. Et là, je cite un témoignage.
On dit plutôt un mal pour un bien.
Un mal, c'est très exactement ce que je voulais dire. Je vous prie de m'excuser, messieurs, dames.
Alors, les profs, ils laissent rien passer.
Effectivement, un mal pour excuse-moi. Un bien, c'est ce que j'avais écrit par ailleurs. Merci Patrick pour cette correction. Donc, je l'ai lu dans un témoignage dans le numéro 59 de juillet-août 2016 du magazine Grandir Autrement, qui est intitulé « Vivre sans école » et qu'on pourra d'accord. aussi mettre en lien dans le podcast. Autre cause, l'inadaptation à l'école traditionnelle. Il y a des enfants qui ne rentrent pas dans le moule et qui se retrouvent en échec scolaire alors qu'ils ont les capacités de réussir. Certains élèves au potentiel, par ailleurs, pas tous, s'en sortent très bien à l'école, mais pas tous. Ou bien des élèves 10 ou TDA, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour lesquels les aménagements qui pourtant existent et sont vraiment de plus en plus pris en compte ne sont pas suffisants. Dernière raison, tout simplement un choix familial, l'envie de passer plus de temps avec ses enfants, plus de souplesse, de plus de liberté dans le quotidien. Des parents, vous savez, c'est ce concept de slow parenting.
Je note, Emma, ton effort à prononcer l'anglais.
Vous avez vu ça ? Parfait.
Celui-là, c'était mieux cette fois-ci.
Voilà.
D'accord.
C'est une autre raison.
Thank you very much, Emma. Nous allons passer à une dernière partie avec Geneviève. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Geneviève, alors ?
Geneviève et Emma.
Non, juste Geneviève. Emma n'a plus droit à la parole.
Oh bah si, j'ai encore des trucs à dire, moi.
Emma, alors, ne toi, t'inquiète pas, tu vas prendre tu as le droit au chapitre.
Vas-y, Geneviève, d'abord.
Du coup, je ne sais plus trop quoi dire, moi. T'es rigolo.
Non, je
ne
sais pas. Qu'est-ce que ça nous dit sur les failles de l'école traditionnelle ?
Sur les failles de l'école traditionnelle, tout simplement, peut-être qu'aujourd'hui, on ne conçoit plus l'éducation de nos enfants comme un produit stéréotypé.
D'accord.
Peut-être que tous nos enfants sont uniques et que... Alors, c'est peut-être un point de vue, mais il me semble, en tout cas, se trouver écho en discutant avec d'autres personnes, tout simplement, on passe aussi plus d'un, on donne plus d'importance à nos enfants aujourd'hui que ne le faisaient peut-être nos parents ou nos grands-parents. Et donc, en tout cas, en écoutant l'interview de Jules ou en t'écoutant Emma, j'ai quand même cette sensation que le unschooling, c'est aussi un peu de l'enseignement sur mesure.
Ouais. Alors, si je peux me permettre, donc ça nécessite, un, des revenus, deux, de la disponibilité, ce qui sont d'ailleurs deux éléments qui sont parfois contradictoires, et trois, je suis désolé, un immense investissement de la part des parents. Je veux dire, il faut qu'ils fassent un vrai travail de fond pour apprendre la pédagogie. C'est un énorme travail. C'est pas à la portée de tout le monde.
Je mettrais un petit bémol quand même, c'est que sur le unschooling, le parent, il va vraiment accompagner l'enfant, il l'aider à trouver les ressources, mais il n'est pas obligé d'avoir fait des études.
Oui, mais il faut quand même qu'il puisse mettre à disposition ces outils. Donc ça, c'est quand même une vraie limite.
C'est vrai.
Et en soi, moi, je trouve qu'on retrouve quand même cette idée du précepteur. Voilà, cette idée de mon enfant a un enseignement sur mesure, mon enfant avance à son rythme, il est respecté dans ses rythmes. Et du coup, ça me conduit finalement à quelque chose d'assez... un point de vue assez paradoxal. Je trouve que c'est très positif et je trouve ça très chouette qu'on puisse proposer ça à son enfant. Vraiment, ça m'enthousiasme beaucoup. Pour autant, très clairement, ce n'est pas à la portée de tout le monde.
Tout à fait. Emma, tu voulais
rajouter. Et c'est un vrai engagement, en tout cas.
Totalement.
Ouais. C'est un vrai engagement.
C'est un mode
après,
de vie.
Pas à la portée de tout le monde, je ne sais pas. Moi, je
n'ai pas convaincu.
Je me questionne.
À partir du moment où on le souhaite.
Le débat s'ouvre.
Tout à fait.
Et se termine.
En tout cas,
la censure est présente sur ce plateau.
C'est
inacceptable.
Les contraintes de temps.
Je voulais ajouter que les enfants, pour ceux qui s'inquiètent des diplômes, qui sont instruits en famille passent le brevet et le bac en candidat libre et les réussissent bien.
D'accord.
Ceux qui le souhaitent intégrer des études supérieures le font également.
Donc ça n'empêche pas l'insertion dans la société via les diplômes qui sont indispensables pour entrer dans les entreprises, du moins en France, c'est encore la règle.
Absolument.
Très bien, nous allons...
J'avais une petite phrase de Géraldine Chaplin qui m'était venue
trop forte, à l'esprit en vous écoutant. Vas-y.
Et qui affirmait que finalement tout enfant est un génie, le tout étant de lui permettre de se révéler.
Merci Geneviève.
Magnifique.
Nous allons conclure avec... on va donner la parole à la fille de Jules, d'accord ?
Qui s'appelle Sybille.
Sybille va prendre la parole et on va pouvoir conclure grâce à Sybille. Messieurs, dames, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Geneviève, Emma, Jean-François, merci à vous. Nous finissons avec Sybille.
Alors, t'aimes bien l'UF ?
Bah oui.
Pourquoi ?
Parce que je me lève pas à 7h du mat' tous les matins.
Ok, tu fais quoi ?
Ensuite je travaille.
Tu fais quoi comme travail?
Je fais des maths et des dictées, de l'anglais et du jardin. Mais sur toute la semaine. Donc, du coup j'en fais pas beaucoup. Le matin.
Tu fais quoi d'autre?
De la lecture, un peu de tricot. Et des échecs. Et de la comédie musicale.
Et l'après-midi ?
On va manger des gâteaux chez Dada.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée. Culture. De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Thank you.